Salut à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel Info Club Sandwich. Je suis entourée de mes deux acolytes, Colline à la console.
Salut.
Et Romane, vous allez bien ?
Ça va très bien, et toi ?
Impeccable. Romane a voulu parler, hein. Tu lui as coupé.
Oh, pardon,
la parole,
vas-y Romane, je coupe mon micro.
Merci Colline.
Justement, toi, tu nous donneras ta sélection d'actu en fin d'émission. Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût ?
Alors oui, en fin d'émission, je vous parle concert, écriture et nature.
Ça donne envie. Bon, alors tout autre sujet. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la santé mentale, une thématique qui fait déjà l'actu puisque le Premier ministre Michel Barnier a annoncé lors de son discours de politique générale vouloir faire de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. Pour en parler, j'ai à mes côtés le psychologue clinicien Valentin Parmentola.
Bonjour.
Et l'étudiant en psychologie, en master 2 à l'UPJV, Rémi Lavaux.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Alors, comment avez-vous accueilli justement cette annonce faite par le Premier ministre ?
Alors,
je dirais
bien, mais pas bien. Bien parce que c'est cool d'en parler, vas-y, on met ça sur la table, c'est chouette. Mmh. Pas bien parce que gros doute sur ce qui va être vraiment fait, sur le quinquennat précédent de Macron et l'actuel. Il y a eu des tentatives de dispositifs, mais qui étaient un peu plus, selon moi, de la poudre aux yeux qu'autre chose, et pas vraiment une mise en place de choses concrètes. Mmh. Alors là, il y a visiblement une tentative de mettre un peu en avant de la prévention, etc. Donc ça, c'est une bonne idée en soi. Mmh. Mais encore une fois, qu'est-ce que concrètement ça va dire ? Ouais. Et puis en plus, justement, ce genre de discours, en général, c'est plutôt pour rassurer, plutôt que vraiment mettre des choses concrètes sur la table. Donc, on va voir, même si moi, je me sens pas non plus trop... J'ai pas trop d'attente par rapport à tout ça.
Et toi ?
Je le rejoins sur le côté... Beaucoup de choses ont déjà été dites, beaucoup de choses ont déjà été promises, ont déjà été mises en avant pour la santé mentale et très peu ont été réellement faites et ont eu des moyens aussi pour être faites. Donc à voir si plus de moyens vont être donnés, plus de professionnels vont être déployés ou mis en avant, mais... J'attends de voir.
Ouais, bien sûr. Bah, il faut dire que la situation est particulièrement alarmante hein, puisque le système de soins est débordé, le secteur de la psychiatrie est en crise depuis de nombreuses années. En quelques chiffres, chaque année, près de 13 millions de Français sont concernés par un trouble psychique et 9 000 personnes se suicident. Notamment les jeunes, puisqu'ils restent particulièrement concernés par ce fléau. Les associations de prévention rappellent régulièrement que c'est la première cause de mortalité chez les jeunes adultes. Concernant justement les jeunes adultes, quel constat dresses-tu, par exemple, localement d'ailleurs, Valentin ?
Concernant les jeunes adultes, donc du coup, moi dans mon cabinet, j'en ai quand même pas mal, que ce soit des étudiants ou des adultes qui sont professionnels depuis pas très longtemps. C'est quand même assez compliqué. Alors bon, nous, on est biaisés parce que forcément, on a les gens qui vont pas bien, qui viennent nous voir.
Sûr.
Donc forcément, on a un échantillon qui est biaisé, mais c'est beaucoup de troubles anxieux, beaucoup de dépression. On a même des nouvelles choses qui apparaissent, comme des troubles anxieux qui sont liés à l'environnement, des troubles anxieux qui sont liés même aux élections dernièrement. J'ai eu pas mal de patients qui m'ont dit « voilà, la dissolution, ça me fait flipper, machin, parce que possibilité d'avoir un gouvernement de fascistes. » Bon, au final, on n'est pas loin. Mais voilà, il y a beaucoup de troubles anxieux comme ça qui sont à la fois liés au contexte général, et en même temps, d'une certaine façon, ça c'est plus positif, à la libération de la langue et à la libération de la pensée sur justement la santé mentale, faut en parler, la santé mentale c'est pas un
tabou. C'est plus
tabou, ouais. Voilà, et il faut en parler. Et ça, je pense que ça contribue au fait que principalement des jeunes se saisissent de ça et vont consulter.
Est-ce que tu constates quand même une augmentation de consultations ou pas ?
Très sincèrement, moi j'ai plutôt un esprit scientifique et de moi tout seul, je ne peux pas répondre à cette question.
Alors,
parce que
par rapport justement à tes collègues, est-ce que tu as pu justement échanger là-dessus ? Ouais.
Moi j'ai échangé notamment par exemple avec des personnes de la maison des ados et effectivement, eux, ils constatent à leur niveau là aussi une recrudescence de plein de problèmes et des jeunes qui vont visiblement de plus mal en mal. En fait, c'est de pire en pire. Donc,
il y a eu l'effet post-Covid également. Hein.
Oui, complètement. Le Covid, il a carrément joué sur la santé mentale. Et encore aujourd'hui, moi, en 2024, c'est quasiment 4 ans qu'il y a eu le Covid, il y a toujours des gens qui disent moi, pendant le Covid, ça allait vraiment pas. Et il y a toujours les retombées aujourd'hui de tout ça.
J'imagine. Donc ça, tu en as parlé des principales causes. Il y a aussi, j'imagine, les causes familiales, personnelles. Et est-ce qu'il y a vraiment un impact au niveau des études? Est-ce que les études provoquent de nombreux troubles chez les étudiants?
Les études, ça peut être une grosse source de stress. Et je dirais peut-être plus dans le sens où il y a un gros questionnement sur ce qu'il va y avoir après les études, sur est-ce que vraiment je vais pouvoir m'insérer dans le monde professionnel, est-ce que vraiment je vais pouvoir trouver un travail grâce à ces études-là, parce qu'il y a plein de zones qui sont bouchées. Et du coup, je dirais que le stress, il est surtout par rapport à ça. Après, peut-être que j'ai des données qui me sont manquantes et du coup, je peux pas forcément...
Oui, c'est ton
répondre.
Analyse, voilà. Voilà.
Mais moi, je dirais que c'est principalement par rapport à ça. Après, les études, ça revient souvent quand même dans le stress des étudiants, parce que est-ce que je vais avoir mon année, est-ce que je vais réussir mon mémoire, des trucs comme ça, les trucs comme ça, c'est vraiment des trucs qui prennent la tête les étudiants. Donc non, c'est...
Plus, imagine, peut-être les conditions financières aussi, c'est peut-être une source de stress assez majeur.
Oui, aussi, bien sûr. Après, là aussi, je suis biaisé parce que comme je suis en libéral, j'ai, alors même si moi, personnellement, c'est pas pour faire ma pub, mais personnellement, j'ai un tarif un peu moins élevé pour tout ce qui est étudiant, demandeur d'emploi, retraité, etc. Mais c'est quand même un coût. Et du coup, moi, j'ai un public qui, visiblement, a de quoi se payer un psychologue en libéral, et du coup j'imagine, je ne peux que supputer du coup que il y a des gens qui sont encore plus en précarité et qui là sont encore plus en souffrance à cause de ça, mais qui ne peuvent même pas se payer un psychologue, donc là j'ai même pas accès à ces données là.
Alors toi, ton avis, Rémi?
Du coup, je le rejoins beaucoup sur les étudiants, mais je dirais que même dans les
études, en plus, tu l'es encore,
je suis étudiant, et même dans les études même, il y a énormément de stress, d'anxiété, d'angoisse, et basé sur les cours, basé sur l'aspect financier, basé aussi sur on va dire la diversité. Il y a tellement de filières qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus dans ce qu'ils veulent faire. Et il y a beaucoup l'idée de réussite aujourd'hui dans notre société. Il faut réussir ses études, faire d'un pas, d'un coup, tout réussir ses études, alors que on peut très bien bouger. Sauf qu'avec la diversité d'études, plein de gens vont changer de filière, se réorienter, etc. Ça crée énormément de stress, énormément d'angoisse sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je suis fait pour les études ou pas. Et du coup, par rapport à la santé mentale, c'est vraiment un sujet, on va dire, comme tu disais, t'as pas tous les échantillons de tout le monde. Et moi, en étant avec des étudiants, en effet, c'est blindé. C'est-à-dire que je pense au service de santé universitaire qui accueille un psy. Il est blindé. Pour avoir un rendez-vous avec lui, des fois, il faut s'y prendre un mois à l'avance parce qu'il y a une queue devant, parce que c'est gratuit. Maintenant, il y a le service Mon Psy aussi qui a été mis en place. Mais pour avoir un rendez-vous avec un psy, il faut aussi s'y prendre à l'avance et puis aller voir un médecin traitant, etc. C'est une bonne chose, mais il y a énormément de demandes. Et plus on monte dans les études, je pense, plus c'est compliqué. Comme tu disais, avec les mémoires, avec je pense notamment au concours de psy, où c'est ultra sélectif et il y a énormément de craquage pendant ce concours. En tout cas, moi, c'est ce que je connais. Je connais pas les autres filières, mais je pense que c'est un petit peu pareil dès l'entrée dans un master. Et du coup, oui, c'est plein, c'est surchargé de demandes de psy, que ce soit pour parler des angoisses, mais aussi d'autres sujets, que ce soit familial, que ce soit tout ça. Les étudiants sont énormément en demande et il n'y a pas assez de moyens, ou en tout cas de choses mises en place pour les accueillir, parce que ça coûte de l'argent.
Et toi aussi, tu constates que les étudiants, il y a cette barrière du tabou d'aller voir le psychologue qui est tombée ou pas ?
Un peu, quand même. Mmh. C'est avec les réseaux sociaux, avec la mise en avant de la santé mentale, c'est plus accepté d'aller voir un psy, mais ça reste des fois compliqué. Selon les filières, en psycho, on va facilement aller voir un psy.
Heureusement.
Je pense aux filières un peu plus... à tout ce qui est commercial, tout ce qui est matériel, on va dire, beaucoup plus terre à terre. C'est difficile d'aller voir un psycho et c'est même pas mis en avant. Nous, c'est mis en avant dans notre filière, ce qui est normal, mais je pense par exemple en art, j'ai des connaissances en art, c'est pas mis en avant. C'est-à-dire que, c'est pas mis en avant. Dans le commercial aussi, c'est pas mis en avant. On leur dit, allez voir un psy si vous voulez, mais vous n'aurez pas de temps, par exemple, si c'est dans votre temps de cours, ça ne sera pas justifié.
En fait, ce que tu me dis, c'est que c'est plutôt au niveau même de la formation et des formateurs qu'il n'y a pas de considération de l'aspect psychologique des étudiants.
C'est ça, c'est aussi une question d'éducation. Selon la filière, on a une éducation différente et un point de vue sur la psychologie qui est différent. Et du coup, en effet, des psychologues vont avoir un bon point de vue sur la psychologie, mais des commerciaux, par exemple, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et du coup, ça dépend vraiment de l'éducation à la psychologie, à la santé mentale. Dire aussi qu'on peut aller voir un psychologue si on va pas forcément très mal. On n'est pas obligé d'aller au fond du, d'être au fond du trou pour aller voir un psychologue. On peut juste avoir des petites crises d'angoisse ou se sentir anxieux par rapport à, je sais pas, un partiel ou quelque chose comme ça.
Et alors, comment vous analysez la prise en charge actuelle de la santé mentale des étudiants ? Est-ce que pour vous, elle est, l'offre est complète ? Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce que, enfin voilà.
Bah, alors moi je trouve que c'est catastrophique, ça manque clairement d'argent, on parlait justement de Barnier tout à l'heure, de ses propositions, ce qui devrait dire c'est plus d'argent dans le service public, parce que la santé, déjà la santé c'est compliqué, mais alors la santé mentale c'est vraiment le parent pauvre de la santé, et non là il manque clairement de l'argent, en fait justement tout à l'heure je disais moi j'ai un public qui a de la chance d'avoir un peu d'argent de côté pour se permettre, ou des parents, pour se permettre d'aller voir un psychologue, ça devrait pas être ça qui prévaut. Et en fait, tout le monde devrait avoir accès à un soutien, un psychologue. Et là, c'est vraiment ça le problème. En fait, par exemple, typiquement, les CMP, donc c'est les centres médico-psychologiques, tu disais, les temps d'attente, ils sont blindés sur un an et demi. An et demi pour avoir un rendez-vous. Autant dire que si on est suicidaire, c'est chaud. Ouais. Alors ok, il y a les urgences psy, mais c'est pas forcément ça qui va nous faire un suivi sur le long terme. Donc non, c'est gravissime et il y a vraiment un gros manque.
Et toi, Rémi ?
Il y a un gros manque. Après, il y a des choses qui sont mises en place. Je vois,
justement,
il y a
c'était ma prochaine question.
Je suis pessimiste.
Je sais qu'il y a des lignes nocturnes, par exemple, qui sont là pour accueillir les personnes en difficulté, qui viennent les écouter. Il y a le 3114, je crois, si je ne me trompe pas, qui est le numéro pour le suicide, qui peut accueillir. Ça reste éphémère, on va dire. Ce n'est pas un suivi sur le long terme. Parce que, comme disait mon collègue, c'est blindé, hein, que ce soit en CMP, en maison des ados, en...
C'est juste un soutien pour éviter le passage à l'acte.
C'est des lignes qui sont disponibles tout le temps, on va dire, qui sont vraiment disponibles 24 heures sur 24, et aussi par SMS, par les réseaux sociaux, par tout ça. Je vois que ça se développe beaucoup, ça, en ce moment. Des comptes Snap qui rendent disponibles des professionnels. Après, souvent, c'est pas forcément des psys, on va dire, parce que ça va plus être des éducateurs ou des personnes qui ont une formation dans la santé mentale. Pas forcément des
psys.
Qui
vont être dans l'écoute et voilà.
C'est ça.
Voilà.
Parce qu'accéder à un psy, c'est compliqué. Et des fois, on peut même se retrancher vers un médecin traitant. Je sais que certains se disent, je n'ai rien, je vais voir un médecin traitant.
Il va me donner des médicaments.
Qui donne des médicaments. Et au final, ça peut atténuer le symptôme, mais pas réellement.
Ou des fois, c'est pas adapté.
Voilà, ce qu'il y a au fond.
Bien sûr. Donc, tu viens de répondre un petit peu. Quels sont les dispositifs d'aide dédiés aux jeunes adultes, à votre connaissance, localement, bien sûr.
Tu as déjà parlé de pas mal de trucs. Effectivement, donc il y a la maison des ados. Donc, il ne faut pas se fier forcément au nom ado, parce que ça va aussi jusqu'à 21 ans. C'est gratuit, c'est anonyme. Donc, du coup, là, c'est pratique. Et OK, ils sont pas mal blindés, mais ce n'est pas comme le CMP où il faut attendre un an pour avoir un rendez-vous. Ce n'est pas forcément des psys auxquels on va avoir accès, mais c'est une bonne première approche, justement, pour avoir une écoute attentive et pour être ensuite, pourquoi pas, redirigé si c'est nécessaire. Typiquement, moi j'ai travaillé au MAI. Le MAI, si on a des problèmes spécifiquement en addiction, c'est aussi gratuit. Je fais exprès de dire des trucs gratuits parce que forcément, si c'est des publics étudiants ou jeunes, il faut que ce soit des trucs gratuits. Le MAI, si on a moins de 25 ans, on y va et c'est complètement gratuit, c'est aussi anonyme et on peut parler d'addiction, n'importe quelle addiction là-bas. Donc il y a quand même des trucs. T'as parlé aussi du dispositif Mon Psy. Moi, au-delà de le présenter, je préfère le critiquer aussi parce que, en fait, ouais, je suis pessimiste, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est des demi-mesures. Ça va pas forcément au fond du truc, mais il y a quand même ce truc-là, c'est-à-dire on peut aller voir son médecin traitant pour avoir une ordonnance, pour avoir accès à un psy qui fait partie de ce dispositif-là. Pour moi, c'est pas suffisant parce que, que ce soit en termes de rémunération pour le psychologue ou en termes de temps pour le patient, c'est pas forcément très juste. Mm-hmm. Mais voilà, il y a quand même des trucs qui sont en place. Je sais pas si toi, tu veux rajouter des trucs.
En soi, t'as presque tout dit. Le fait que mon psy, c'est 8 séances, je crois, c'est ça, c'est très très court. Et aussi, ça met une grosse pression sur, du coup, les patients qui vont se dire « j'ai 8 séances pour régler mes problèmes, après, je dois payer ». Du coup, c'est pas top. Après,
Mais est-ce que vous avez des conseils, justement, à donner aux étudiants pour... alors, outre aller voir un psychologue, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des conseils pour, justement, enrayer un petit peu les troubles anxio-dépressifs, l'anxiété, l'angoisse
Mais en fait, moi, pour le coup, j'ai beaucoup critiqué, mais mon conseil, ce serait quand même de saisir de ces moyens-là. Si vous avez de l'argent, tant mieux, et allez voir un psychologue, que ce soit en libéral ou autre. Mais si vous n'avez pas d'argent, saisissez-vous quand même de ces choses-là qui sont gratuites, parce que ce sera, mine de rien, quand même une aide, ce sera quand même un moyen de faire vous faire aider. Même si vous devez attendre un an pour aller en CMP, si ce n'est pas un trouble qui est là présent tout de suite, il sera... Enfin, qui comment dire, explosif, qui est de l'ordre du suicide, de l'ordre de vraiment de la menace imminente, en fait, dans un an, votre trouble ne sera pas résolu. Donc, dans un an, vous aurez quand même besoin de ce psychologue-là. Donc, c'est un cache-misère, hein, mais quand même, saisissez-vous-en. Maintenant, on parlait de tabou. Je pense qu'il faut justement casser ce tabou-là, parce que rien que le fait de parler avec ses proches de ses problèmes psy, ça aide énormément. Le fait de vider son sac, alors oui, en face, on n'aura pas des conseils de psychologue, mais on aura des gens aimant, a priori, des gens qui sont à l'écoute, et rien que ça c'est cool, et des fois ils peuvent avoir des conseils aussi qui sont intéressants, donc faut pas hésiter, que ce soit vos potes, vos proches, parler autour de vous de vos problèmes psy, vous serez accompagnés et vous aurez ce sentiment là d'être entendu, et ça fait vraiment du bien.
Ça fait du bien aussi à entendre. Hein. Donc cette labellisation grande cause nationale, elle va permettre de mettre en avant la question de la santé mentale. Alors grâce notamment à la diffusion gratuite de spots sur les télévisions et radios publiques au profit d'organismes à but non lucratif et d'assauts, une décision réclamée depuis des mois par le collectif Santé mentale grande cause nationale 2025. Mais face à l'ampleur des besoins, de nombreuses voix espèrent qu'outre la médiatisation gratuite, des moyens et des solutions à la hauteur du problème seront également mises en œuvre. Alors, selon vous, se dirige-t-on vers des politiques publiques ambitieuses ?
C'est pas ambitieux, ça. C'est la base.
Mais au-delà, justement, de ça ?
Ce serait bien. Encore une fois, je pense que c'est un peu de la politique fiction de se dire qu'est-ce qui va se faire réellement avec ce gouvernement-là. Moi, je pense vraiment pas que ce sera leur priorité. Donc, après, je me trompe peut-être, je veux bien être de bonne foi. Mais encore une fois, ce gouvernement-là, il lui reste... Allez, on va être gentil, 2 ans. Il y aura peut-être même pas 1 an en fait en réalité, parce qu'il y aura peut-être une autre dissolution. Donc c'est très compliqué de se projeter. On a un système qui est défaillant, qui va mal. Et derrière, il n'y a pas forcément les politiques qui soutiennent. Donc moi, je ne pense pas que c'est ambitieux. Je pense que c'est la base. Je pense même qu'il devrait être bien plus ambitieux. Mais ça, c'est autre chose.
Je pense que ça ne va pas suffire déjà par la durée que ça met à mettre en place quelque chose de concret. J'ai fait un service civique dans la santé mentale pour accéder et faire des ateliers auprès de structures. Des fois, ça prenait 6 mois pour y accéder, juste pour faire des ateliers.
Alors, qu'est-ce qui manque ? C'est le nombre de personnel ? C'est les professionnels ? C'est quoi, en fait ?
L'argent.
Mais pour payer les professionnels ?
Exactement, complètement. Pardon, excuse-moi.
Aussi, les informations. C'est-à-dire que... par exemple, dans Amiens, c'est assez un sujet qui est assez connu. Voilà, on parle de santé mentale, il y a la maison des ados, tout ça. En dehors du secteur d'Amiens, c'est très compliqué. Dès qu'on arrive dans la campagne, c'est des sujets qui sont pas abordés, qui sont encore plus sujets à de tabous, de préjugés, etc. Du coup, il n'y a pas d'information.
Il y a moins de structures, effectivement.
C'est ça, moins de structures, moins de soignants. Pour accéder à ces soignants, ils sont aussi assez isolés. Donc, c'est encore plus compliqué.
La mobilité, Il y a plein de facteurs, effectivement, de freins pour pouvoir accéder à la santé mentale.
C'est ça.
Bref, c'est une note très optimiste. Merci à vous, en tout cas, d'être venu en parler au micro de Radio Campus Amiens.
Merci à vous.
Vous pourrez revenir, mais cette fois-ci, nous parler de choses mises en place qui sont plutôt sympas.
Positives. En vrai, pour finir sur une note optimiste, on peut se dire quand même que justement, ce qu'on fait là, et ce que plein d'autres aussi font, c'est de la prévention, c'est discuter de la santé mentale. Et ça, c'est quand même quelque chose de bien, d'utile. Et donc, faut pas baisser les bras. On a un constat national qui est terrible, mais il y a des petites choses qui peuvent se faire et qui font avancer les choses. C'est pas suffisant, on est d'accord, mais quand même, il faut garder espoir et tenir bon.
Merci, t'as remonté le niveau, c'est chouette.
Et je voulais aussi dire, les professionnels qui sont engagés sont souvent très engagés dans la santé mentale. Je vois les éducateurs, les psys, etc. J'ai pu faire mon stage dans divers endroits et ça fait des visites à domicile, on accompagne les jeunes jusqu'à leur âge adultes et même après, dans leur milieu étudiant. Il y a peu de structures, il y a peu de moyens, mais les moyens qui sont mis en place, ils s'y donnent à fond, ils font ce métier-là parce qu'ils ont envie de faire ce métier-là. Et il y a aussi des structures comme les services civiques, comme les missions locales, comme tout ça, qui sont des bonnes choses parce que la santé mentale isole beaucoup beaucoup de gens sont isolés. Ça permet de retrouver un groupe, des gens à qui parler, comme tu disais tout à l'heure, ne pas rester tout seul. Et du coup, voilà, il y a peu de choses, mais les choses qui sont mises en place, ils se donnent à fond.
Bah merci beaucoup à vous deux. On marque une petite pause musicale avec A Message to You, Rudy, des Specials. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Voici venue l'heure tant attendue, les actus de Romane. On commence avec Eddie de Préto, de passage à Amiens.
Oui, exactement. Alors, puisqu'on parlait de santé mentale aujourd'hui, vous avez sûrement déjà entendu le célèbre morceau Kid d'Eddie de Préto. C'est un mélange de chansons françaises et de rap. Et en fait, en 2018, l'artiste y dénonçait son mal-être face au modèle de virilité. Et en fait, il est de retour, c'est au festival de Minuit avant la nuit qu'il avait annoncé son concert au Zénith d'Amiens. Et ça se passe le 7 novembre à l'occasion de la sortie de son nouvel album Crash Cœur. Donc il reste encore des places et vous retrouverez toutes les informations en termes de réservation sur www.zénith-amiens.fr.
Un atelier d'écriture.
Oui, alors en tant qu'écrivaine en herbe, je me dois de vous annoncer que le musée de Picardie propose un atelier d'écriture intitulé « D'une œuvre à l'autre ». Et en gros, vous choisissez une peinture, une sculpture ou un objet exposé au musée. Et en fait, cela vous servira d'inspiration pour votre propre création littéraire. Donc il est ouvert à tous les adultes, que vous ayez l'habitude d'écrire ou non. Donc en bref, venez comme vous êtes. Côté info pratique, ça se passe au musée de Picardie le 11 octobre de 17h à 19h. Et il y aura aussi une autre séance le 25 octobre, donc aux mêmes horaires, même lieu. Et pour les infos réservations, je vous renvoie cette fois-ci sur www.amiens-tourisme.com.
Et enfin, tu nous donnes un rendez-vous au cimetière, c'est ça?
Tout à fait, Stéphanie. Donc, les rendez-vous d'automne, ça commence cette semaine. Alors, ça se passe au cimetière de la Madeleine, comme tu l'as dit. Vous pourrez profiter d'une balade guidée dans les allées qui sont bordées d'arbres. Et en fait, vous serez...
Mais il est super beau, hein. Tu le connais, le cimetière de la Madeleine?
Alors, pas du tout.
Ah, il déglingue. Vraiment, mais... t'as Jules Verne. Enfin, c'est vraiment fantastique, hein, faut y aller.
Ouais. Ouais. Eh ben, j'y ferai un tour, un de ces quatre. Et donc, vous serez surpris de découvrir la provenance des arbres. Donc, c'est l'occasion d'embarquer pour un tour du monde express, de l'Inde à l'Irlande, en passant même par Alexandrie. Ce qui est assez fou. Et ça se passe le 12 octobre à 10h et le 13 octobre à 14h30. Et c'est adapté à tous les âges. Alors juste, on évite les sandales ou les talons aiguilles et on prévoit plutôt des chaussures adaptées parce qu'il y a aussi une balade guidée pour admirer les couleurs d'automne. Et cette fois-ci, ça se passe au Marais des Trois Vaches entre Amiens et Longo. Et à la fin, vous saurez pourquoi les arbres changent de couleur et vous serez aussi incollable sur les couleurs, toujours, pour reconnaître un fruit non comestible, de quoi éviter un fâcheux empoisonnement.
Merci, ça c'est pas mal. Effectivement, ça peut être utile.
Et cette fois-ci, c'est le 12 octobre à 14h30 et le 13 octobre à 10h. Et pour les réservations, ça se passe sur www.festival-oiseau-nature.com.
Bah, merci beaucoup, Romane, pour toutes ces actus. Toi, il y en a une qui te fait, qui te fait envie, Colline ?
Oh, le cimetière. Là, aller ouais, faire un petit tour, faire coucou à Jules Verne.
Ah, vraiment, il est magnifique. T'as des tombes incroyables, vraiment. Non, mais vraiment, c'est assez
Stéphanie, passion cimetière.
Mais carrément, moi j'ai habité pendant des années avec ma mère en face d'un cimetière et c'était assez agréable.
Vous étiez pas embêtée par les voisins au
moins. Bah non, t'avais la basse ciel d'un côté, le cimetière de l'autre, on était fin bien. L'émission est déjà finie, on vous laisse finir votre sandwich en musique avec The Ballad of Arlo Jones de Kevin Morby. À bientôt!
Talk about, and there's the battle of Arlo Jones.